Le testament d'un excentrique, chapitre 7. Le premier partant. Le lendemain, la grande gare de Chicago présentait une animation particulière. D'où provenait cette animation? Évidemment de la présence d'un voyageur, en costume de touriste, son attirail de peintre au dos, suivi d'un jeune nègre, porteur d'une légère valise et d'un sac en bandoulière, qui se préparait à prendre le train de 8h10 du matin. Ce ne sont pas les Railroads qui manquent à la République fédérale. Ils desservent son territoire en toutes les directions. Aux États-Unis, la valeur des chemins de fer dépasse 55 milliards de francs et 700 000 agents sont employés à leur exploitation. Rien qu'à Chicago, il se fait un mouvement de 300 000 voyageurs par jour, sans compter les 10 000 tonnes de journaux et de lettres que les wagons y transportent annuellement. Il résulte de là que n'importe où le caprice d'aider devait les envoyer à travers l'Union, aucun des 7 partenaires ne serait embarrassé ni retardé pour s'y rendre. Et encore convient-il d'ajouter à ces multiples voies ferrées les steamers, les steamboats, les bateaux des lacs, des canaux, des rivières. En ce qui regarde Chicago, il est facile d'y aller et non moins facile d'en partir. Max Réal, revenu la veille de son excursion, se dissimulait parmi la foule qui encombrait l'auditorium lorsque les chiffres 4 et 4 furent proclamés par Maître Thornbrock. Personne ne le savait là, on ignorait son retour. Aussi, à l'appel de son nom, se produisit-il un assez inquiétant silence que rompit la voix tonitruante du commodore Hurricane, lequel cria de sa place « Absent !»« Présent !» fut-il répondu. Et Max Réal, salué par les applaudissements, était monté sur la scène. « Prêt à partir ?» demanda le président de l'excentrique club en se rapprochant de l'artiste. Prêt à partir et à gagner, répondit en souriant le jeune peintre. Le commodore Hodge Hurricane, comme un cannibale de la Papouasie, l'aurait dévoré vivant. Quant à cet excellent Awiste Kimball, il s'avança et lui dit sans amertume « Bon voyage, compagnon !»« Bon voyage à vous aussi, lorsque le jour sera venu de boucler votre valise !» répliqua Max Réal. Et tous deux échangèrent une cordiale poignée de main. Ni Hodge Hurricane, ni Tom Crabb, l'un furieux, l'autre hébété comme d'habitude, ne crurent devoir s'associer aux compliments du journaliste. Quant au ménage Tilbury, il ne formait qu'un vœu. C'était que tous les mauvais aléas du jeu s'abattissent sur la tête de ce premier partant, qu'il allât s'enfoncer dans le puits du Nevada ou se fourrer dans la prison du Missouri. Dût-il y demeurer jusqu'à la fin de son existence. En passant devant l'Issiwag, Max Réal s'inclina respectueusement et dit « Mademoiselle, vous me permettrez bien de vous souhaiter bonne chance. »« Mais c'est parler contre votre intérêt, monsieur !» fit observer la jeune fille, un peu surprise. « N'importe, mademoiselle, et soyez certaine que je fais des vœux pour vous. »« Je vous remercie, monsieur !» répondit l'Issiwag. Et je vis affolée de glisser dans l'oreille de son ami cette observation, très juste d'ailleurs. Il est fort bien de sa personne, ce Max Réal, et il sera mieux encore si, comme il le souhaite, il te laisse arriver première. Cette opération finie, la salle de l'auditorium fut peu à peu évacuée, et le résultat du coup de dé se répandit aussitôt à travers la ville. Le match hyperbone, suivant l'expression adoptée par le public, allait commencer. Dans la soirée, Max Réal acheva ses préparatifs, combien peu compliqués. Et le lendemain matin, il embrassa sa mère, après promesse formelle de lui écrire le plus souvent possible. Puis, il quitta le numéro 3997 de Halsted Street, précédé du fidèle Tommy, et arriva pédestrement à la gare 10 minutes avant le départ du train. Que le réseau des Railroads rayonne en tous sens autour de la cité chicagoise Max Real n'en était plus à l'apprendre, et il n'avait à se préoccuper que de choisir entre les deux ou trois voies ferrées qui se dirigeaient vers le Kansas. Cet État n'est pas limitrophe de celui de l'Illinois, mais il n'en est séparé que par celui du Missouri. Aussi, le voyage que le sort imposait au jeune peintre ne comprendrait que 550 ou 600 milles, suivant l'itinéraire qui aurait sa préférence. « Je ne connais pas le Kansas, » se dit-il, « et c'est là une occasion de faire connaissance avec le désert américain, comme on l'appelait jadis. Et puis, parmi les cultivateurs du pays, on compte pas mal de franco-canadiens. Je serai là comme en famille, car il ne m'est pas interdit de cheminer à ma fantaisie pour me rendre à l'endroit qui m'est assigné. » Non, cela n'était pas interdit. Tel avait été l'avis de Maître Thornbrock consulté à ce sujet. La note, rédigée par William J. Hyperbone, imposait à Max Real l'obligation de gagner Fort Wheeler dans le Kansas, et il suffirait qu'il s'y trouvât le 15e jour après son départ, afin de recevoir par télégramme le chiffre du second coup qui le concernerait, soit le 8e de la partie. En somme, des 50 États rangés sur la carte dans l'ordre que l'on sait, il n'en était que 3 où le partenaire dut se rendre dans le plus court délai à l'endroit où il aurait peut-être la chance d'être remplacé dès le coup suivant. C'était la Louisiane, case 19e affectée à l'hôtellerie, le Nevada, case 30e affectée au puits, et le Missouri, case 52e affectée à la prison. Et maintenant qu'il convainc à Max Real de gagner son poste par le chemin des écoliers, suivant l'expression française, rien de mieux. Mais il était à supposer qu'un enragé comme le Commodore Hurricane ou un avare comme Herman Tilbury n'useraient ni leur patience ni leur bourse à flâner en route. Ils fileraient à toute vapeur, en grande vitesse, peu désireux de transir evidendo. Voici quel était l'itinéraire adopté par Max Real. Au lieu de se diriger par le plus court vers Kansas City en traversant obliquement de l'est à l'ouest l'Illinois et le Missouri, il prendrait le Grand Trunk, cette voie ferrée qui, sur une longueur de 3786 milles, va de New York à San Francisco. Océan tout océan, dit-on en Amérique. Un parcours de 500 milles environ lui permettrait d'atteindre Omaha sur la frontière du Nebraska et de là, à bord de l'un des steamboats qui descendent le Missouri, il atteindrait la métropole du Kansas. Puis, en touriste, en artiste, il arriverait à Fort Wheeler au jour fixé. Lorsque Max Real entra dans la gare, il y trouva nombre de curieux. Avant d'engager de fortes sommes à propos de la partie qui allait se jouer, les parieurs voulaient voir de leurs propres yeux le premier qui se mettrait en voyage. Bien que des cotes, reposant sur des probabilités plus ou moins valables, n'eussent pas encore pu être établies, il convenait d'observer le jeune peintre au moment du départ. Son attitude inspirerait-elle confiance? Serait-il bien en forme? Y aurait-il lieu de penser qu'il deviendrait grand favori, malgré que la possibilité de prime à payer pût donner à craindre qu'il fût arrêté en route? Il faut l'avouer, Max Real n'eut pas l'heure, ce qu'il s'en moquait, de plaire à ses concitoyens, par cela même qu'il emportait son attirail de peintre. Jonathan, en homme pratique, estimait qu'il ne s'agissait point de voir du pays ni de faire des tableaux, mais de voyager en partenaire, non en artiste. À son avis, la partie imaginée par William J. Hyperbone s'élevait à la hauteur d'une question nationale, et il valait qu'elle fût sérieusement jouée. Si aucun des 7 n'y mettait toute l'ardeur dont il était capable, ce serait un manque de convenance envers l'immense majorité des citoyens de la libre Amérique. Aussi le résultat fut-il que parmi les assistants désappointés, pas un seul ne se décida à monter dans le train afin d'accompagner Max Real, au moins jusqu'à la première station, et de lui faire, comme on dit vulgairement, un bout de conduite. les wagons s'emplirent des seuls voyageurs que les obligations du commerce ou de l'industrie appelaient hors de Chicago. Max Réal put donc s'installer tout à son aise sur une des banquettes et Tommy se placer près de lui, car le temps n'était plus où les Blancs n'eussent pas supporté dans leur compartiment le voisinage des hommes de couleur. Enfin, le sifflet se fit entendre, le train s'ébranla, la puissante locomotive hennit par sa bouche évasée qui lançait des gerbes d'étincelles mêlées de vapeur. Et, au milieu de la foule, restée sur le quai, on aurait pu apercevoir le Commodore Hurwican jeter à ce premier partant des regards chargés de menaces. Au point de vue du temps, le voyage débutait mal. Ne pas oublier qu'en Amérique, à cette latitude, et bien que ce soit le parallèle de l'Espagne septentrionale, l'hiver n'a pas pris fin au mois d'avril. À la surface de ces vastes territoires que ne couvre aucune montagne, il se prolonge jusqu'à cette époque de l'année, et les courants atmosphériques lancés des régions polaires s'y déchaînent en toute liberté. Cependant, si le froid commençait à céder devant les rayons du soleil de mai, les rafales troublaient encore l'espace. Des nuages bas, d'où tombaient de larges averses, brouillaient l'horizon et le bornaient à courte distance. Fâcheuse circonstance pour un peintre en quête de sites lumineux et de paysages ensoleillés. Toutefois, mieux valait parcourir les États de l'Union au premier jour de la saison printanière. Plus tard, les chaleurs deviendraient insoutenables. Après tout, il était permis d'espérer que le mauvais temps ne durerait pas au-delà du mois, et quelques symptômes attestaient déjà de meilleures dispositions climatériques. Un mot maintenant sur le jeune nègre, depuis 2 ans déjà au service de Max Réal, qui allait l'accompagner dans un voyage probablement si fécond en surprise. C'était, on le sait, un garçon de 17 ans, par conséquent né libre, puisque l'émancipation des esclaves remontait à la guerre de sécession, terminée une trentaine d'années avant, au grand honneur des Américains et de l'humanité. Le père et la mère de Tommy vivaient au temps de l'esclavage, étant originaires de cet état du Kansas où la lutte fut si violente entre les abolitionnistes et les planteurs virginiens. Les parents de Tommy, c'est sur ce point qu'il est à propos d'insister, n'avaient pas été soumis à un sort trop rigoureux et l'existence leur fut plus facile qu'à beaucoup de leurs semblables. Ayant vécu sous un bon maître, homme sensible et juste, il se considérait comme étant de sa famille. Aussi, lorsque l'on proclama le bill d'abolition, ils ne voulurent pas plus le quitter qu'ils ne songeaient à se séparer d'eux. Tommy était donc libre à sa naissance, et après la mort de ses parents et de leur maître, était-ce l'influence de l'atavisme ou le souvenir des jours heureux de son enfance ? Il fut fort embarrassé lorsqu'il se trouva seul en face des nécessités de la vie. Peut-être son jeune cerveau ne comprit-il pas les avantages que devait lui procurer ce grand acte de l'émancipation, quand il n'eut plus qu'à compter sur ses propres forces pour se tirer d'affaire, lorsqu'il lui fallut songer au lendemain, lui qui ne s'était jamais préoccupé de l'avenir, lui à qui le présent était tout. Et ne sont-ils pas plus nombreux qu'on ne le croit, ces pauvres gens qui regrettent, en enfants qu'ils sont encore, d'être devenus des serviteurs libres après avoir été des serviteurs esclaves. Par bonheur, Tommy avait eu cette chance d'être recommandé à Max Réal. Il était assez intelligent, de franche nature, de bonne conduite, prêt à aimer ce qui lui témoignerait quelque affection. Il s'attacha au jeune artiste, chez lequel il allait trouver une situation assurée. Un regret, un seul, et il ne le cachait pas. C'était de ne pas lui appartenir d'une façon plus complète, de corps comme il l'était d'âme, et il le répétait souvent. « Mais pourquoi ?» demandait Max Réal. « Parce que si vous étiez mon maître, si vous m'aviez acheté, je serais à vous. » « Et qui gagnerais-tu, mon garçon ?»« J'y gagnerais que vous ne pourriez pas me renvoyer, ce qu'on fait d'un serviteur dont on n'est pas content. » Hé, Tommy, qui parle de te renvoyer? D'ailleurs, si tu étais mon esclave, je pourrais toujours te vendre. N'importe, mon maître, c'est très différent et ce serait plus sûr. En aucune façon, Tommy. Si, si. Et puis, moi, je ne serai pas libre de m'en aller. Eh bien, sois tranquille. Si je suis satisfait de ton service, je t'achèterai un jour. Et à qui, puisque je ne suis à personne? À toi, à toi-même, quand je serai riche, et aussi cher que tu voudras. Tommy approuvait de la tête, ses yeux brillant au fond de leur orbite noire, découvrant sa double rangée de dents d'une éclatante blancheur, heureux à la pensée de se vendre un jour à son maître, et ne l'en aimant que davantage. Inutile de dire combien il était satisfait de l'accompagner pendant cette promenade à travers les États-Unis. Il aurait eu gros cœur à le voir partir seul, même s'il ne se fût agi que d'une séparation de quelques jours. Et que durerait la partie engagée dans ces conditions si le sort ne se prononçait pas à bref délai, si le gagnant mettait des semaines et, qui sait, des mois à atteindre le 63e état? Que le voyage dût être court ou non, il fut certainement très maussade pendant cette première journée entre les vitres du wagon brouillé de buée et de pluie. Il fallut se résigner à passer à travers le pays sans le voir. Tout se perdait dans ces tons grisâtres, abhorrés des peintres. Le ciel, les champs, les villes, les bourgades, les maisons, les gares. Les paysages de l'Illinois apparurent confusément sous les brumes. On n'entrevit que les hautes cheminées des minoteries de Tapiesville et les toitures des fabriques de montres d'Aurora. Rien d'Oswego, de Yorkville, de Sandwich, de Mendoza, de Princeton, de Rock Island, de son pont superbe jeté sur le Mississippi, dont les eaux laborieuses entourent l'île du Rock. Rien de cette propriété de l'État transformée en arsenal, où des centaines de canons allongent leurs volets entre les taillis verdoyants et les buissons en fleurs. Max Réal était fort désappointé. À passer entre les rafales, il ne resterait rien dans son souvenir de peintre. Autant eût valu dormir toute cette journée. Ce que Tommy fit consciencieusement. Vers le soir, la pluie cessa. Les nuages regagnèrent les hautes zones. Le soleil se coucha dans les draps d'or de l'horizon. Ce fut un régal pour les yeux de l'artiste. Mais presque aussitôt, l'ombre crépusculaire envahit l'espace sur les limites géodésiques qui séparent l'Iowa de l'Illinois. Aussi la traversée de ce territoire, quoique la nuit fût assez claire, ne donna-t-elle aucune satisfaction à Max Réal. Il ne tarda pas à fermer les yeux et ne les rouvrit que le lendemain au petit jour. Et peut-être eut-il raison de regretter de n'être pas descendu la veille à Rock Island. Oui, j'ai eu tort, grand tort, se dit-il à son réveil. Le temps ne m'est point mesuré, et je ne suis pas à 24 heures près. La journée dont je compte disposer pour Omaha, j'aurais dû la passer à Rock Island. De là à Davenport, cette cité riveraine du Mississippi, il n'y a que le grand fleuve à traverser. Et je l'aurais enfin vu, ce fameux père des eaux, dont je suis peut-être appelé à visiter toute la lignée, pour peu que le sort me promène à travers les territoires du centre. Il était trop tard pour se livrer à ses réflexions. À présent, le train courait à toute vapeur sur les plaines de l'Iowa. Max Réal ne put rien apercevoir du Iowa City, dans la vallée de ce nom, et qui, pendant 16 ans, fut la capitale de l'État, ni Des Moines, la capitale actuelle, un ancien fort bâti au confluent de la rivière de ce nom et du Wacoon, maintenant une cité de 50 000 habitants, campée au milieu d'un réseau de railroads. Enfin, le soleil se levait lorsque le train vint stopper à Council Bluff, presque sur la limite de l'État, et à 3 000 seulement d'Omaha, ville importante de ce Nebraska dont le Missouri forme la frontière naturelle. Là s'élevait jadis la falaise du Conseil. Là s'assemblaient les tribus indiennes du Far West. De là partaient les expéditions de conquête ou de commerce qui devaient entraîner la reconnaissance des régions sillonnées par les multiples ramifications des montagnes rocheuses et du Nouveau-Mexique. Eh bien, il ne serait pas dit que Max Real brûlerait cette première station de l'Union Pacifique comme il en avait brûlé tant d'autres depuis la veille. « Descendons, » dit-il. « Est-ce que nous sommes arrivés ?» demanda Tommy en ouvrant les yeux. « On est toujours arrivés quand on est quelque part. » Et après cette réponse étonnamment positive, tous les deux, l'un le sac au dos, l'autre sa valise à la main, sautèrent sur le quai de la gare. Le steamboat ne devait pas démarrer du quai d'Omaha avant 10 heures du matin. Or, il n'en était que 6, et le temps ne manquerait même pas pour visiter Council Bluff sur la rive gauche du Missouri. C'est ce qui fut fait, après la courte halte du premier déjeuner. Puis, le futur maître et le futur esclave s'engagèrent entre les deux voies ferrées qui, aboutissant aux deux ponts jetés sur le fleuve, établissent une double communication avec la métropole du Nebraska. Le ciel s'était rasséréné. Le soleil lançait une gerbe de rayons matineux à travers la déchirure des nuages qu'une légère brise d'est promenait au-dessus de la plaine. Quelle satisfaction, après 24 heures d'emprisonnement dans un wagon de chemin de fer, que d'aller ainsi, d'un pas libre et dégourdi. Il est vrai, Max Real ne pouvait songer à prendre quelques sites au passage. Devant les yeux s'étendaient de longues et arides grèves, peu tentantes pour le pinceau d'un artiste. Aussi marcha-t-il droit vers le Missouri, ce grand tributaire du Mississippi, qui s'appela jadis Misé-Souris, petit canoui, c'est-à-dire en langage indien, le fleuve bourbeux, dont le cours en cet endroit mesure déjà 3000 milles depuis sa source. Max Real avait eu une idée, que n'aurait sans doute ni le commodore Hurricane, ni l'entraîneur de Trom Queb, ni même Awist et Kimball. C'était de se soustraire, autant qu'il le pourrait, à la curiosité publique. Voilà pourquoi il n'avait pas fait connaître son itinéraire en quittant Chicago. Or, la cité d'Omaha s'intéressait non moins que les autres à cette partie du noble jeu des États-Unis d'Amérique. Et si elle eût su que le premier partant venait d'arriver ce matin-là dans ses murs, elle l'aurait reçu avec les honneurs dus à un personnage de cette importance. Une ville considérable, cette Omaha, et, compris son bourg du sud, elle ne compte pas moins de 150 000 habitants. C'est le « boom », ce que Reclus appelle justement la période de réclame, de spéculation, d'agiotage, et en même temps de travail furieux, qui, en 1854, l'a fait surgir des solitudes, comme bien d'autres, avec tout son appareil d'industrie et de civilisation. Joueur d'instinct, comment les Omaïens résisteraient-ils au besoin de parier pour tel ou tel des partenaires que l'aveugle destin allait éparpiller sur les territoires de l'Union? Et voici que l'un d'eux dédaignait de leur révéler sa présence. Décidément, ce Max Real ne faisait rien pour se concilier la faveur de ses concitoyens. En effet, il se borna à prendre repas dans un modeste hôtel, sans y décliner son nom ni ses qualités. Il était possible, du reste, que le hasard le renvoyât plusieurs fois au Nebraska ou dans les États que dessert vers l'ouest le Grand Trunk. C'est précisément à Omaha que s'amorce cette longue voie ferrée, appelée Pacific Union, entre Omaha et Ogden, puis Southern Pacific, entre Ogden et San Francisco. Quant aux lignes qui mettent Omaha en communication avec New York, les voyageurs n'ont que l'embarras du choix. Donc, non reconnu, Max Real déambula à travers les principaux quartiers de cette ville, de forme non moins échiquière que sa voisine Council Bluff, 54 cases juxtaposées et rectangulaires dont la géométrie impose les limites rectilignes. Il était 10 heures lorsque Max Real, suivi de Tommy, revint vers le Missouri par le nord de la ville et redescendit le quai jusqu'à l'embarcadère du steamboat. Le Dean Richmond était prêt à partir. Ses chaudières ronflaient comme un ivrogne, son balancier n'attendait que l'ordre de mise en marche pour se mouvoir au-dessus du spar deck. La journée suffirait au Dean Richmond, après un parcours de 150 milles, pour atteindre Kansas City. Max Real et Tommy vinrent s'installer sur la galerie supérieure, à l'arrière. Ah, si les passagers avaient su que l'un des tenants de la fameuse partie allait descendre en leur compagnie les eaux missouriennes jusqu'à la ville de Kansas, quel accueil enthousiaste! Mais Max Real continua de garder le plus strict incognito, et Tommy ne se fut pas permis de le trahir. À 10h10, on largua les amarres. Les puissantes aubes se mirent en mouvement et le steamboat prit le courant du fleuve, semé de ses pierres ponces flottantes, arrachées à ses sources dans les gorges des montagnes rocheuses. Les rives du Missouri, à la surface du Kansas, plates et verdoyantes, ne présentent point l'aspect bizarre que leur donnent en amont les encaissements de roches granitiques. Ici, le jaune fleuve n'est plus interrompu par les cataractes, les barrages, les écluses, ni troublé par les sauts et les rapides. Gonflé des apports de ses tributaires venus des lointaines régions du Canada, il est largement affluencé par de nombreux cours d'eau, dont le principal est la Yellowstone River. Le Dean Richmond marchait rapidement au milieu de la flottille de ses bâtiments à vapeur ou à voile qui utilisent son cours d'aval, le cours d'amont n'étant guère navigable, soit que les glaces l'encombrent pendant l'hiver, soit que les sécheresses le tarissent pendant l'été. On arriva à Platte City, sur la rivière qui donne un de ses noms à l'État, car elle porte aussi celui de Nebraska. Mais, en réalité, celui de Platte est mieux justifié, car ses méandres se déroulent entre des rives herbeuses très découvertes qui laissent peu de profondeur à son lit. À 25 milles de là, le steamboat fit escale à Nebraska City. Et cette ville est en réalité le véritable port de Lincoln, capitale de l'État, bien qu'elle se trouve à une vingtaine de lieues à l'ouest du fleuve. Pendant l'après-midi, Max Real put prendre quelques croquis à la hauteur d'Atkinson et un site remarquable près de Leavenworth où le Missouri est franchi par l'un des plus beaux ponts de son cours. C'est là que fut élevé en 1827 un fort destiné à défendre le pays contre les tribus indiennes. Il était près de minuit lorsque le jeune peintre et Tommy débarquèrent à Kansas City. Il leur restait une douzaine de jours pour atteindre Fort Wheeley, l'endroit indiqué en cet état par la note de William J. Hyperbone. Tout d'abord, Max Real fit choix d'un hôtel de certaine apparence où il passa une bonne nuit après 24 heures de chemin de fer et 14 de bateau. Le lendemain fut consacré à la visite de la ville, ou plutôt des deux villes, car il y a deux Kansas situés sur la même rive droite du Missouri, qui forment en cet endroit une boucle resserrée. Mais, séparées par la Kansas River, l'une appartient à l'État du Kansas, l'autre à l'État du Missouri. La seconde est de beaucoup la plus importante, avec 130 000 habitants, tandis que la première n'en compte que 38 000. En réalité, elles ne feraient qu'une seule et même cité si elles étaient dans le même État. Au surplus, Max Real n'avait pas l'intention de séjourner plus de 24 heures, ni dans la Kansas du Kansas, ni dans la Kansas du Missouri. Ces deux villes se ressemblent comme deux damiers, et qui a vu l'une a vu l'autre. Aussi, dès le matin du 4 mai, il se remit en route à destination de Fort Wheeley. Et cette fois, il allait faire le voyage en artiste. Sans doute, il prit encore le railroad, mais il était bien résolu à descendre aux stations qui lui plairaient, à excursionner en quête de paysages dont il saurait tirer profit si le premier parti, il ne devait pas être le premier arrivé. Ce n'était plus le désert américain d'autrefois. la vaste plaine remonte graduellement vers l'ouest jusqu'à l'altitude de 500 toises sur la frontière du Colorado. Ces ondulations successives se coupent de fonds larges et boisés, séparés par des steppes à perte de vue, que parcouraient 100 ans avant les Indiens Kansas, Nez Percé, Otis et autres tribus désignées sous le nom de Peau-Rouge. Mais ce qui avait amené une transformation complète de la contrée, c'était la disparition des cyprières et des sapinières, la plantation de millions d'arbres à fruits à la surface des savanes, et aussi l'établissement de pépinières pour l'entretien des vergers et des vignobles. Des espaces immenses, livrés à la culture du sorgho, entrée dans la fabrication courante du sucre, alternaient avec les champs d'orge, de seigle, de sarrasin, d'avoine, de froment, qui font du Kansas l'un des plus riches territoires de l'Union. Quant aux fleurs, elles s'épanouissaient, et combien variées d'espèces! Surtout le long des rives de la Kansas, plus particulièrement d'innombrables touffes d'armoises à feuilles cotonneuses, les unes herbacées, les autres flutescentes, qui imprégnaient l'air d'un parfum de térébenthine. Bref, en allant de station, en s'éloignant de 4 à 5 milles à travers la campagne, en ébauchant quelques toiles, Max Réal employa une semaine à gagner Topeka, où il arriva le 13 mai dans l'après-midi. Topeka est la capitale du Kansas. Son nom lui vient de ses pommes de terre sauvages qui foisonnaient sur les pentes de la vallée. La ville occupe la rive méridionale du cours d'eau et se complète du faubourg de la rive opposée. Demi-journée de repos, nécessaire à Max Réal comme au jeune noir, repos qui fut interrompu le lendemain par une visite à la capitale. Ses 32 000 habitants ne savaient guère qu'il possédait le célèbre partenaire dont le nom s'étalait déjà sur les affiches du jour. Et cependant, on l'attendait, pour ainsi dire, au passage. On n'imaginait pas qu'il eût pris, pour se rendre à Fort Riley, une autre voie ferrée que celle qui longe la Kansas et dessert Topeka. La population en fut pour son attente. Et Max Réal repartit le 14 dès l'aube sans que sa présence eût été soupçonnée un instant. Fort Riley, au confluent des rivières Smoky Hill et Republican, n'était plus qu'à une soixantaine de milles. Max Réal y pouvait donc être le soir même, si cela lui convenait, ou le lendemain, s'il lui prenait fantaisie de flâner en route. C'est même ce qu'il fit après avoir quitté le Railroad à la station de Manhattan. Mais il s'en fallut de peu qu'il ne fût arrêté dès le début de la partie et perdit le droit de la continuer. Que voulez-vous ? L'artiste l'avait emporté sur la pièce d'échiquier que le sort poussait à travers cette région. Dans l'après-midi, Max Réal et Tommy, descendus à l'avant-dernière station, 3 ou 4 milles avant Fort Riley, s'étaient dirigés vers la rive gauche de la Kansas. Comme une demi-journée devait suffire à franchir cette distance, même pédestrement, et il n'y avait aucune inquiétude à concevoir. Ce qui engagea Max Réal à faire halte au bord de la rivière, ce fut le charmant paysage qui s'offrait soudain à ses yeux. Dans un angle du cours d'eau, capricieusement rempli de lumière et d'ombre, se dressait l'un des derniers arbres d'une ancienne cyprière. Ses branches formaient berceau d'une rive à l'autre. Au bas, on voyait les restes d'une cabane en adobe et vers l'arrière s'étendait une vaste prairie émaillée de fleurs, principalement d'éclatants tournesols. Au-delà de la Kansas se montrait un fond de verdure avec d'obscures profondeurs, piquées çà et là de vifs rayons de soleil. L'ensemble s'arrangeait à souhait. Quel joli site ! Se dit Max Réal. En 2 heures, j'en aurai achevé l'ébauche. Ce fut lui, on va le voir, qui faillit être achevé. Le jeune peintre s'était assis sur la berge, sa petite toile encastrée dans le couvercle de la boîte à couleurs, et il travaillait depuis 40 minutes sans se laisser distraire, lorsqu'un bruit lointain, le quadrupedante sonitu de Virgile, se fit entendre dans la direction de l'est. On eût dit un formidable chevauchement à travers la plaine qui bordait la rive gauche. Ce fut Tommy, couché au pied d'un arbre, que cette grandissante rumeur tira le premier du demi-sommeil auquel il s'abandonnait si volontiers. Son maître n'entendant rien, ne détournant pas la tête, il se releva, remonta de quelques pas la berge afin de porter sa vue plus au loin. Le bruit redoublait alors, et du côté de l'horizon s'élevaient des volutes de poussière, que la brise, assez fraîche alors, repoussait vers l'ouest. Tommy revint d'un pas rapide et pris d'un sérieux effroi, s'adressant à Max Réal. « Mon maître !» dit-il. Le peintre, très absorbé devant sa toile, ne parut point songer à lui répondre. « Mon maître !» répéta Tommy d'une voix inquiète en lui mettant la main sur l'épaule. « Hé, qu'est-ce qui te prend, Tommy ?» répliqua Max Réal, très occupé à mélanger du bout de son pinceau un peu de terre de sienne et de vermillon. « Mon maître, vous n'entendez pas ?» s'écria Tommy. Il aurait fallu être sourd pour ne point entendre les roulements de cette tumultueuse galopade. Aussitôt, Max Réal de se redresser, de déposer sa palette sur l'herbe et de gagner la lisière de la berge. À 500 pas, se mouvait une chevauchée énorme, soulevant des nuages de poussière et de vapeur, une sorte d'avalanche qui se précipitait à la surface de la plaine et d'où sortaient des hennissements furieux. En quelques instants, cette avalanche serait sur le bord de la rivière. Il n'y avait de fuite possible que vers le nord. Aussi, son attirail ramassé, Max Réal, suivi ou plutôt précédé de Tommy, détala-t-il dans cette direction. La horde qui s'avançait à toute vitesse se composait de plusieurs milliers de ces chevaux et mulets que l'État élevait autrefois dans une réserve sur la rive du Missouri. Mais depuis que les automobiles et la bicyclette sont à la mode, ces hippomoteurs, on va jusqu'à les appeler ainsi, abandonnés à eux-mêmes, errent à travers la campagne. Ceux-ci, affolés, galopaient ainsi sans doute depuis plusieurs heures. Aucun obstacle n'ayant pu les arrêter, les champs, les cultures avaient été dévastés sur leur passage, et si la rivière ne leur opposait pas une barrière infranchissable, jusqu'où iraient-ils ? Max Réal et Tommy, bien qu'ils courussent à toutes jambes, se sentaient près d'être atteints, et ils eussent été écrasés sous ce piétinement terrible s'ils n'avaient pu grimper aux basses branches d'un vigoureux noyer, le seul arbre qui se dressait à la surface unie de la plaine. Il était alors 5 heures du soir. Là, tous deux étaient en sûreté, et lorsque les derniers rangs de la horde eurent disparu du côté de la rivière, « Vite, vite !» s'écria Max Réal. Tommy ne se hâtait guère de quitter la branche sur laquelle il s'était échevalé. « Vite, te dis-je, ou je perdrai 60 millions de dollars et je ne pourrai pas faire de toi un vil esclave. » Max Réal plaisantait, et il ne courait point risque d'arriver en retard à Fort Wheeler. C'est pourquoi, au lieu de regagner la station, dont il était trop éloigné maintenant, et où il ne trouverait peut-être pas un train en partance, s'en alla-t-il tranquillement de son pied léger à travers la plaine. Puis, le soir venu, il se guida sur les lointaines lumières qui brillaient à l'horizon. C'est ainsi que s'effectua cette dernière partie du voyage. Et 8 heures n'avaient pas encore sonné à l'horloge de la ville lorsque Max Réal et Tommy se trouvèrent devant Jackson Hotel. Le premier partant était donc à l'endroit que William J. Hyperbone avait choisi dans la 8e case. Et pourquoi ce choix ? Probablement parce que si le Missouri, situé au centre géographique de l'Union, a pu être appelé l'État central, le Kansas d'autre part justifie cette appellation, puisqu'il en occupe le milieu géométrique, et que Fort Wheeler est placé au cœur même de l'État. Or, c'est à ce propos qu'un monument a été édifié près de Fort Wheeler, au point où se réunissent les rivières Smoky Hill et Republican. Enfin, que ce fût cette raison ou une autre, Max Réal était sain et sauf à Fort Wheeler. Le lendemain, en quittant Jackson Hotel où il était descendu, Maxwell se rendit au poste office, entra dans le bureau et s'informa si un télégramme avait été expédié à son adresse. « Le nom de monsieur ?» demanda l'employé. « Max Real. »« Max Real, de Chicago ?» En personne. « Et l'un des partenaires de la grande partie du noble jeu des États-Unis d'Amérique ?» Lui-même. Impossible cette fois de garder l'incognito. Et la nouvelle de la présence de Max Real se répandit dans toute la ville. Ce fut donc au milieu des « hurrahs », mais à son grand ennui, que le jeune peintre revint à l'hôtel. C'était là que lui serait apportée, dès qu'elle arriverait, la dépêche indiquant le second coup de dé tiré pour son compte et qui devait l'envoyer... où ? Où le voudraient les caprices de l'impénétrable destin ? Chapitre 8. Tom Crabbe, entraîné par John Milner. 11 par 5 et 6. Ce n'était pas, en somme, un coup à dédaigner, du moment qu'un joueur n'amène pas 9 par 6 et 3 ou par 5 et 4 pour aller à la 26e ou à la 53e case. Ce qu'il y avait à regretter, peut-être, c'était que l'état indiqué par ce numéro 11 fut précisément très éloigné de l'Illinois, et nul doute que Tom Crabbe en eût éprouvé quelque dépit, ou du moins son entraîneur, John Milner. Le sort les envoyait au Texas, le plus vaste des territoires de l'Union, à lui seul d'une superficie supérieure à celle de la France. Or, cet état, situé au sud-ouest de la Confédération, confine au Mexique, dont il n'a été séparé qu'en 1835, après la bataille gagnée par le général Houston contre le général Santa Anna. Deux itinéraires principaux permettaient à Tom Crabbe d'atteindre le Texas. Il pouvait, en quittant Chicago, ou se rendre à Saint-Louis et prendre les steamboats du Mississippi jusqu'à la Nouvelle-Orléans, ou suivre la voie ferrée qui conduit à la métropole de la Louisiane en traversant les États de l'Illinois, du Tennessee et du Mississippi. De là, on étudierait le chemin le plus court pour gagner Austin, la capitale du Texas, lieu marqué dans la note de William J. Hyperbone, soit par les Railroads, soit à bord de l'un des steamers qui font le service entre la Nouvelle-Orléans et Galveston. John Milner crut devoir donner la préférence au chemin de fer pour transporter Tom Crabbe en Louisiane. En tout cas, il n'avait point de temps à perdre, comme Max Real, ni le loisir de muser en route, puisqu'il fallait que le 16, il fût de sa personne au terme du voyage. « Eh bien ?» lui demanda le chroniqueur de la Free Press après que le résultat du tirage eut été proclamé le 3 mai dans la salle de l'auditorium. « Quand partez-vous ?»« Dès ce soir. »« Votre malle est prête ?»« Ma malle, c'est Crabbe, » répondit John Milner. « Il est rempli, fermé, ficelé. Je n'ai plus qu'à le conduire à la gare. »« Et que dit-il ?»« Rien. Dès que son 6e repas sera achevé, nous irons ensemble prendre le train et je le mettrai au bagage, si je ne craignais un excédent. »« J'ai le pressentiment, » reprit le chroniqueur, « que Tom Crabbe sera favorisé de la même chance. »« Moi aussi, » déclara John Milner. « Bon voyage. Merci. » L'entraîneur ne tenait pas à imposer l'incognito au champion du Nouveau Monde, un personnage aussi considérable, au point de vue matériel, que Tom Crabbe n'aurait pu passer inaperçu. Son départ ne fut donc point tenu secret. Il y eut foule ce soir-là, sur les quais de la gare, pour le voir se hisser dans son wagon au milieu des hurrahs. John Milner monta après lui, puis le train démarra, et peut-être la locomotive sentit-elle un surcroît de charge, dû au transport du pesant pugiliste. Pendant la nuit, le train dévora 350 miles, et le lendemain, il atteignit Fulton à la limite de l'Illinois, sur la frontière du Kentucky. Tom Crabbe ne s'inquiétait guère d'observer le pays qu'il traversait. Un État relégué au 14e rang dans l'ensemble de l'Union. Sans doute, à sa place, Max Real et Awist et Kimball n'auraient pas manqué de visiter Nashville, la capitale actuelle, et le champ de bataille de Chattanooga, sur lequel Sherman ouvrit les routes du Sud aux armées fédérales. Et puis, l'un en artiste, l'autre en reporter, pourquoi n'aurait-il pas fait un à droite d'une centaine de milles jusqu'à Grand Junction, afin d'honorer Memphis de leur présence? C'est la seule importante cité que l'État possède sur la rive gauche du Mississippi, et elle a belle apparence, dressée sur la falaise, qui domine le cours du superbe fleuve, semé d'îles en pleine verdure. Mais l'entraîneur ne crut pas devoir s'écarter de son itinéraire pour permettre aux deux énormes pieds de Tom Crabbe de fouler cette cité à dénomination égyptienne. Aussi n'eut-il pas l'occasion de demander pourquoi, il y a quelque 60 ans, puisque Memphis est fort éloigné de la mer, le gouvernement y avait établi des arsenaux et des chantiers de construction, actuellement abandonnés du reste, ni d'entendre la réponse qui lui eût été faite. En Amérique, on commet de ces erreurs, tout comme ailleurs. Le train continua donc d'emporter le deuxième partenaire et son indifférent compagnon à travers les plaines de l'État du Mississippi. Il passa par Holly Springs, par Grenada, par Jackson. Cette dernière ville est la capitale, peu considérable, d'un territoire que l'exclusive culture du coton a laissé fort en retard du mouvement industriel et commercial. Là, cependant, et durant une heure à la gare, l'arrivée de Tom Crabbe produisit un gros effet. Plusieurs centaines de curieux avaient voulu contempler le célèbre donneur de coups de poing. Certes, il ne possédait pas la taille d'Adam, auquel on attribuait, avant les rectifications de l'illustre Cuvier, 90 pieds, ni celle d'Abraham, 18 pieds, ni même celle de Moïse, 12 pieds. Mais c'était encore un gigantesque type de l'espèce humaine. Or, parmi les curieux, se trouvait un savant, l'honorable Kilkearney, lequel, après avoir mesuré avec une extrême précision le champion du Nouveau Monde, crut devoir faire quelques réserves, et voici ce qu'il n'hésita pas à déclarer ex professo. Messieurs, d'après les recherches historiques auxquelles je me suis livré, j'ai pu retrouver les principaux calculs de mensuration qui se rapportent aux études gigantographiques, chiffrées d'après le système décimal. Au XVIIe siècle, apparut Walter Parsons, haut de 2,27 m. Au XVIIIe siècle, apparurent l'Allemand Müller de Leipzig, haut de 2,40 m, l'Anglais Burnsfield, haut de 2,35 m, l'Irlandais McGrath, haut de 2,30 m, l'Irlandais O'Brien, haut de 2,55 m, l'Anglais Toller, haut de 2,56 m, et l'Espagnol El Aseguin, haut de 2,35 m. Au XIXe siècle, apparurent le grec Ovassab, haut de 2,33 m, l'anglais Holz de Torfolk, haut de 2,40 m, l'allemand Marianne, haut de 2,45 m, et le chinois Chang, haut de 2,55 m. Or, de la plante des pieds au sommet de la nuque, je ferai observer à l'honorable entraîneur que Tom Crabbe donne seulement 2,30 m. « Que voulez-vous que j'y fasse ?» répondit non sans aigreur John Milner. « Je ne peux pourtant pas l'allonger. »« Non, sans doute, » reprit M. Kilkearney, « et je ne le demande pas. Mais enfin, il est inférieur à... »« Tom, » dit alors John Milner, « envoie un coup droit dans la poitrine de M. le savant, afin qu'il mesure aussi la force de ton biceps. » Le savant Kilkearney ne voulut point se prêter à une expérience qui ne lui eût pas laissé le nombre réglementaire de ses côtes, et il se retira d'un pas digne et méthodique. Quant à Tom Crabbe, il n'en fut pas moins salué des acclamations du public, lorsque John Milner eut porté en son nom un défi aux amateurs de boxe. Toutefois, le défi ne fut pas relevé, et le champion du Nouveau Monde se rehissa dans son compartiment tandis que les souhaits de bonne chance pleuvaient autour de lui. Après avoir traversé du nord au sud l'état du Mississippi, la voie ferrée atteint la frontière de la Louisiane à la station de Rocky Comfort. En suivant le cours de la Tangipahoa River, le train descendit jusqu'au lac Pontchartrain, dont il dépassa la rive occidentale par l'étroite langue de terre qui sépare ce lac de celui de Maurepas et sur laquelle repose le viaduc de Morshack. À la station de Carrollton, il rencontra le fleuve, large environ de 450 toises, dont la boucle se replie pour contourner la cité louisianaise. C'est à la Nouvelle-Orléans que Tom Crabb et John Milner quittèrent définitivement le Railroad, après un parcours de près de 900 miles depuis Chicago. Arrivés dans l'après-midi du 5 mai, il leur restait donc 13 jours pour se rendre à Austin, la capitale du Texas. Temps très suffisant, bien qu'il y eût lieu de compter avec des retards possibles, soit par la voie de terre en utilisant le Southern Pacific, soit par la voie de mer. Dans tous les cas, il n'eût pas fallu demander à John Milner de promener son Crabb par la ville pour lui en faire admirer les curiosités. Si le hasard y envoyait quelque autre des sept, celui-là saurait mieux que lui s'acquitter de cette tâche. Austin était encore éloigné de plus de 400 milles, et John Milner ne songeait qu'à s'y transporter par le plus court et par le plus sûr. Le plus court aurait été le chemin de fer, puisqu'il y a communication directe entre les deux villes, à la condition de trouver concordance entre les trains. En effet, après s'être avancé dans la direction de l'ouest à travers la Louisiane par Lafayette, Rachlan, Terrebonne, Tigerville, Ramos, Brasher, vers la pointe du lac Grand, il rejoint à 180 milles de là la frontière du Texas. À partir de là, la ligne reprend depuis la station d'Orange jusqu'à Austin sur un parcours de 230 milles. Néanmoins, peut-être avait-il tort, John Milner donna la préférence à un autre itinéraire et pensa que mieux valait s'embarquer à la Nouvelle-Orléans pour le port de Galveston qu'un railroad relie à la capitale texienne. Justement, il se trouva que le steamer Sherman devait, dès le lendemain matin, quitter la Nouvelle-Orléans à destination de Galveston. C'était une circonstance dont il fallait profiter. 300 milles de mer sur un bâtiment qui enlevait ses 10 milles à l'heure, ce serait l'affaire d'un jour et demi. Deux jours, si le vent n'était pas favorable. John Milner ne jugea point à propos de consulter Tom Crabb à ce sujet. Pas plus qu'on ne consulte sa malle lorsqu'elle est bouclée pour le départ. Son sixième repas pris dans un hôtel du port, l'éminent boxeur ne fit qu'un somme jusqu'au matin. Il était 7 heures lorsque le capitaine Curtis donna l'ordre de larguer les amarres du Sherman après qu'il eut accueilli l'illustre champion du Nouveau Monde avec les égards dus au second partenaire du match Hyperbonne. « Honorable Tom Crabb, lui dit-il, je suis honoré d'avoir l'honneur de votre présence à mon bord. » Le boxeur n'eut pas l'air de comprendre ce que lui disait le capitaine Curtis, et ses yeux se dirigèrent instinctivement vers la porte du dining room. « Croyez bien, reprit le commandant du Sherman, que je ferai l'impossible pour que vous arriviez dans le plus court délai à bon port. Je ne ménagerai pas mon combustible. Je n'économiserai pas ma vapeur. Je serai l'âme de mes cylindres, l'âme de mon balancier, l'âme de mes roues qui tourneront à toute vitesse afin de vous assurer gloire et profit. » La bouche de Tom Crabb s'ouvrit comme pour répondre et se referma aussitôt pour se rouvrir et se refermer encore. Cela indiquait que l'heure du premier déjeuner avait sonné à l'horloge stomacale de Tom Crabb. « Toute la cambuse est à votre disposition, » déclara le capitaine Curtis, « et soyez sûr que nous débarquerons à temps au Texas. Dussé-je faire charger les soupapes et dû le navire en sauter ?»« Ne sautons pas, » répondit John Milner. avec ce bon sens qui le distinguait. Ce serait une faute, à la veille de gagner 60 millions de dollars. Le temps était beau, et au surplus, il n'y a rien à craindre dans les passes de la Nouvelle-Orléans, bien qu'elle soit sujette à de capricieux changements que surveille le service maritime. Ce fut celle du sud que suivit le Sherman, entre les roseaux et les joncs de ses basses rives. Peut-être le nerf olfactif des voyageurs fut-il désagréablement affecté par les exhalaisons hydrogénées d'innombrables pustules qu'engendre la fermentation des matières organiques du fond. Mais il n'y a aucun danger d'échouement dans ce canal, devenu la véritable entrée du grand fleuve. On passa devant plusieurs usines et entrepôts, groupés sur les deux bords, devant la bourgade d'Algier, devant la pointe à la hache, devant Jump. D'ailleurs, à cette époque, l'étiage est élevé. En avril, mai et juin, le Mississippi se gonfle de crues régulières et ses eaux ne descendent à leur minimum qu'en novembre. Le Sherman n'eut donc point à ralentir sa vitesse et il atteignit sans encombre Port Hinds, nom de l'ingénieur dont les travaux améliorèrent cette passe du sud. C'est là que le Mississippi va s'absorber dans le golfe du Mexique, et son parcours n'est pas estimé à moins de 4500 milles. Le Sherman, dès qu'il eut tourné les dernières pointes, mit le cap à l'ouest. Comment Tom Webb avait-il supporté cette partie de la traversée? Très bien. Après avoir mangé à ses heures habituelles, il alla se coucher. Puis il apparut frais et dispo le lendemain, lorsqu'il vint reprendre sa place à l'arrière du spar deck. Le Sherman était déjà d'une cinquantaine de milles au large, et la côte très basse se dessinait à peine vers le nord. C'était la première fois que Tom Webb se risquait à une navigation sur mer. Aussi, tout d'abord, le roulis et le tangage parurent l'étonner. Cet étonnement amena sur sa large face, si rubiconde d'habitude, une pâleur croissante, dont John Milner, très aguerri pour son compte, ne tarda pas à s'apercevoir. « Est-ce qu'il va être malade ?» se demanda-t-il en s'approchant du banc sur lequel son compagnon avait dû s'asseoir. Et le secouant à l'épaule, il dit « Ça va-t-il ?» Tom Webb ouvrit la bouche, et cette fois, ce ne fut pas la faim qui mit en jeu ses masters, bien que l'heure du premier repas fût sonnée. Or, comme il ne put la refermer à temps, un jet d'eau salée s'introduisit jusque dans sa gorge au moment où le Sherman s'inclinait sous un fort coup de houle. Tom Webb, déralingué du banc, s'abattit sur le pont. Il était assez indiqué de le transporter au centre du steamer où les oscillations sont moins sensibles. « Viens, Tom, » dit John Milner. Tom Webb voulut se relever, mais il s'y essaya en vain et retomba de tout son poids. Le capitaine Curtis, averti par la secousse, se dirigea vers l'arrière. « Je vois ce que c'est, » affirma-t-il. « Rien, en somme, et l'honorable Tom Webb s'y fera. Il n'est pas possible qu'un tel homme soit sujet au mal de mer. C'est bon, tout au plus pour les femmelettes. » Ou alors ce serait terrible chez un individu aussi fortement constitué. Terrible, en effet, et jamais passagers n'assistèrent à plus lamentable spectacle. La nausée, on en conviendra, c'est plutôt le lot naturel des malingres et des souffreteaux. Le phénomène s'accomplit alors de façon normale et sans violenter la nature. Mais un type de cette corpulence et de cette vigueur, n'en serait-il pas de lui comme de ces monuments qui sont plus endommagés par un tremblement de terre que la frêle cabane d'un Indien? Celle-ci résiste, alors que celui-là se disloque. Et Tom Webb se disloqua, et il menaça de ne plus former qu'un monceau de ruines. John Milner, très ennuyé, intervint. « Il faudra le déhaler, » dit-il. Le capitaine Curtis appela le maître d'équipage et 12 matelots pour ce surcroît de besogne. L'escouade, combinant ses efforts, tenta vainement de relever le champion du Nouveau Monde. Il fut nécessaire de le rouler le long du spar deck comme un tonneau, puis de l'affaler sur le pont au moyen d'un palan, puis de le traîner jusqu'aux roufs de la machine, dont le balancier semblait narguer sa masse impuissante, et il demeura à cette place en complète prostration. « Voilà, » fit observer John Milner au capitaine Curtis, « c'est cet abominable eau salée que Tom a reçue en pleine figure. Si encore c'était de l'alcool !»«
Si c'était de l'alcool, » répondit judicieusement le capitaine Curtis, « il y a longtemps que la mer aurait été bu jusqu'à la dernière goutte, et il n'y aurait plus de navigation possible. »
C'était vraiment joué de malheur. Le vent qui venait de l'ouest changea cap pour cap et souffla grand frais. De là, redoublement de roulis et de tangage. Puis, à marcher contre les lames, il y eut diminution considérable dans la vitesse du steamer. La longueur du voyage serait assurément doublée, 70 à 80 heures au lieu de 40. Bref, John Milner traversa toutes les phases de l'inquiétude, tandis que son compagnon traversait toutes les phases de cet affreux mal. Ballottement des intestins, troubles dans l'appareil circulatoire, vertiges tels que n'en provoque jamais la plus complète ivresse. En un mot, suivant une expression du capitaine Curtis, Tom Webb n'était plus bon qu'à ramasser à la pelle. Enfin, le 9 mai, après un furieux coup de vent, qui par bonheur fut de courte durée, les côtes du Texas, bordées de dunes de sable blanc, défendues par un chapelet d'îles, au-dessus desquelles voletaient des bandes d'énormes pélicans, apparurent vers 3 heures du soir. Grosse économie pour le service du bord. Tom Webb, bien qu'il eût souvent et trop souvent ouvert la bouche, n'avait rien mangé depuis son dernier repas pris à la hauteur de Port Heads. John Milner se berçait de l'espoir que son compagnon se ressaisirait, qu'il dompterait l'abominable mâle, qu'il reprendrait forme humaine, qu'il serait enfin présentable, lorsque le Sherman, abrité de la haute mer dans la baie de Calveston, ne subirait plus les oscillations de la houle. Non, le malheureux ne parvint point à se reprendre, même en eau calme. La ville est située à l'extrémité d'une pointe sablonneuse. Un viaduc la réunit au continent, et c'est par là que se font les expéditions du commerce, entre autres celle du coton d'une importance considérable. Le Sherman, dès qu'il eut évolué à travers la passe, alla se ranger contre son appontement. John Milner ne put retenir un juron de fureur. Quelques centaines de curieux étaient là sur le quai. Prévenu par Phil que Tom Webb s'était embarqué à la Nouvelle-Orléans pour Calveston, ils l'attendaient à son arrivée. Et qu'allait leur présenter son entraîneur, au lieu et place du champion du Nouveau Monde, deuxième partant du match Hyperbone? Une masse informe qui ressemblait plus à un sac vide qu'à une créature humaine. John Milner tenta encore de provoquer le redressement physique de Tom Webb. « Eh bien, ça ne va donc pas ?» Le sac reste à sac. Et la vérité est qu'il fallut le transporter sur une civière à Beach Hotel où un appartement était retenu. Quelques plaisanteries, quelques colibés éclatèrent à son passage, au lieu des hurrahs auxquels il était habitué et qui avaient salué son départ de Chicago. Mais enfin, tout n'était pas désespéré. Dès le lendemain, après une nuit de repos et une série de repas habilement combinés, Tom Webb retrouverait sans doute son énergie vitale, sa vigueur normale, et il n'y paraîtrait plus. Eh bien, pour peu que John Milner se fût tenu ce langage, il se serait encore trompé. La nuit n'apporta aucune modification dans l'état sanitaire de son compagnon. L'anéantissement de toutes ses facultés fut aussi profond le lendemain que la veille. Et pourtant, on n'exigeait de lui aucun ressort intellectuel dont il eût été incapable, mais un simple effort animal. Ce fut inutile. Sa bouche restait hermétiquement fermée depuis qu'il avait touché terre. Elle n'appelait pas la nourriture, et l'estomac ne faisait plus entendre ses cris accoutumés aux heures habituelles. Ainsi s'écoula la journée du 10 mai, puis celle du 11, et c'était le 16, dernier délai,
qu'il fallait être à Austin. John Milner prit alors le seul parti qu'il eût à prendre. Mieux valait arriver trop tôt que trop tard. Si Tom Crabb devait sortir de cette prostration, il en sortirait aussi bien à Austin qu'à Galveston, et du moins, il serait rendu à son poste. Tom Crabb fut donc véhiculé à la gare sur un camion, et finalement introduit dans un wagon à l'état de colis. Lorsque 8h30 du soir sonnèrent, le train se mit en marche, tandis que les groupes de parieurs restés sur le quai se refusaient à engager la plus petite somme, pas même 25 cents, sur un partenaire en si mauvaise forme. Il était heureux que le champion du Nouveau Monde et son entraîneur n'eussent pas à parcourir les 75 millions d'hectares que comprend la superficialité texienne. Il n'aurait qu'à franchir les 160 milles qui séparaient Galveston de la capitale de l'État. Assurément, il eût été désirable de visiter les régions arrosées par le magnifique Rio Grande et tant d'autres rivières, l'Antonio, le Brazos, la Trinity, qui se jettent dans la baie de Galveston. Puis le Colorado et ses capricieuses rives semées d'huile perlière. Un magnifique pays, ce Texas, possédant d'immenses prairies où campaient autrefois les Comanches. Il est hérissé dans l'ouest de forêts vierges, riches en magnolia, en sycomore, en pacanier, en acacia, en palmier, en chêne, en cyprès, en cèdre. Il déploie à profusion ses champs d'orangers, de nopals, de cactus, les plus beaux de la flore. Ces montagnes au nord-ouest, qui font pressentir les montagnes rocheuses, sont superbes. Il produit la canne à sucre supérieure à celle des Antilles, le coton de Nococlocher supérieur à celui de Maryland ou de la Virginie, un coton supérieur à celui du Mississippi et de la Louisiane. Il a des fermes de 40 000 acres qui comptent autant de têtes de bétail. Et c'est par centaines de milles que ces ranchos élèvent les plus beaux types de la race chevaline. Mais en quoi cela pouvait-il intéresser Tom Crabb, qui ne regardait jamais rien, et John Milner, puisqu'il ne regardait jamais que Tom Crabb? Dans la soirée, le train s'arrêta 2 heures à la gare de Houston, jusqu'où peuvent monter les bâtiments d'un faible tirant d'eau. Là est établi l'entrepôt des marchandises qui arrivent par la Trinity, le Brazos et le Colorado. Le lendemain, 13 mai, de très grand matin, Tom Crabb descendait à la gare d'Austin au terme de son voyage. Centre industriel important, desservi par les eaux du fleuve que retient un barrage, cette capitale est bâtie sur une terrasse au nord du Colorado, au milieu d'une région où abondent le fer, le cuivre, le manganèse, le granit, le marbre, le plâtre et l'argile. Cité plus américaine que bien d'autres du Texas, choisie pour être le siège de la législature de l'État, elle compte 26 000 habitants, presque tous d'origine saxonne. Elle est une, tandis que les villes du Rio Grande sont doubles, avec des maisons en bois d'un côté du fleuve, des cabanes en adobe de l'autre, telles El Paso, El Presidio, à demi mexicaines. Donc, à Austin, il n'y eut que des amateurs américains qui vinrent par curiosité, peut-être dans le dessein d'engager quelques paris, contempler le second partenaire qu'un coup de dé leur envoyait des lointaines régions de l'Illinois. En somme, ceux-ci furent plus favorisés que ne l'avaient été les gens de Galveston et de Houston. En mettant le pied sur le pavé de la capitale texienne, Tom Crabb s'était enfin dégagé de cette inquiétante torpeur, dont les soins, les supplications, les objurcations même de John Milner n'avaient pu triompher. Peut-être, au premier abord, le champion du Nouveau Monde parut-il un peu vanné, un peu mou d'action, un peu flasque de désinvolture, et comment s'en étonner, puisqu'il n'avait rien absorbé, si ce n'est l'air marin, depuis que le Sherman avait pris le large. Oui, le géant s'était vu réduit à ne se nourrir que de lui-même. Il est vrai, même réduit à cet ordinaire, la nourriture ne lui eut pas manqué pendant de longs jours encore. Mais aussi, quel repas il fit ce matin-là! Repas qui dura jusqu'au soir. Quartier de venaison, viande de mouton et de bœuf, charcuterie variée, légumes, fruits, fromages, et l'alf and alf, et le gin, et le whisky, et le thé, et le café. John Milner éprouva une certaine épouvante en songeant à la note d'hôtel qui lui serait présentée à la fin du séjour. Et cela recommença le lendemain et le surlendemain, et c'est ainsi qu'arriva la date du 16 mai. Tom Queb était redevenu la prodigieuse machine humaine, devant laquelle Corbett, Fitzsimmons et d'autres boxeurs non moins célèbres avaient tant de fois mordu la poussière.